Notre invité aujourd'hui, artiste de la scène musicale française que vous connaissez peut-être, que vous allez découvrir avec nous dans quelques instants. Il s'appelle Oldelaf. Oldelaf, merci d'être avec nous.
Eh ben, merci à vous de m'accueillir dans cette salle magnifique de détente et de musculation à la fois.
Ouais, on sait recevoir, hein, chaise relax.
J'aime Limoges rien que pour ça, pour cet accueil.
Elle est réputée à travers le monde. Avant de parler de l'actu, c'est un album, c'est un single notamment qui cartonne bien sur Internet. On fait les présentations. Oldelaf, c'est Olivier Delafosse. Avant d'ailleurs d'être en solo, il y a eu une belle aventure de groupe pendant une dizaine d'années.
Oldelaf et Monsieur D, 10 années merveilleuses, 3 albums. Une aventure qui a commencé dans un petit café parisien, qui a fini à l'Olympia. Un plus grand café parisien, voilà. Et puis, 10 ans vraiment de bonheur, de rire. Et puis voilà, j'avais envie, moi, de passer à des choses toujours dans l'humour, mais plus personnelles aussi, au travers de cet album. Donc c'est une vraie nouvelle aventure qui commence et qui se passe très bien pour l'instant. En effet, voilà, la tristitude qui est le premier clip et premier single, comme disent les Américains, et qui se passe, voilà, ça se passe très bien, il y a beaucoup de réponses et de réactions, donc une jolie aventure se prépare, ouais.
Et le déclic de la carrière solo, c'est quoi? C'est un album pour enfants, je crois, vers 2008, c'était l'idée de s'en servir vers une autre écriture, voilà, plus personnelle, vous l'avez dit?
Ouais, c'est ça, j'étais un peu surpris avec cet album de chansons pour enfants, qui était une commande un petit peu, mais en fait, je me suis régalé sur le fait de ne pas être contraint à faire rire forcément, c'est-à-dire qu'au début de chaque chanson, je partait là où j'en avais envie, et c'est ça vraiment que j'ai eu envie de retrouver là. Bon, maintenant sur cet album, en disant des choses un peu plus profondes certainement, et des choses peut-être plus intéressantes qui s'adressent plus aux adultes, mais par contre c'est hyper hyper enrichissant pour moi de pouvoir me parler de ça et de le partager, ouais.
Alors, deux événements, on l'a dit, l'album, Le Monde est beau, le single La Tristitude. Alors déjà, on va mettre les choses un petit peu, l'ambivalence de ces deux titres-là, même si, quand on creuse un petit peu dans la chanson, on voit que le titre est parfois un peu trompeur. Mais c'est quoi? C'est l'idée de montrer les deux facettes de la société, une double personnalité de l'interprète?
Ouais, mais c'est ça vraiment. J'espère que tu apprécies les envolées lyriques de Chopin en fond.
Mais c'est Z, on est bien.
Exactement, voilà. Mais c'est chaud, c'est Chopin. Oui, c'est exactement. Et faire le titre Le Monde est beau, je crois, résume pas mal ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que il y a tout le cynisme du fait de dire Le Monde est beau en ce moment, avec tout ce que l'actualité nous montre de gris et tout ça, et en même temps cette volonté de toujours trouver de l'optimisme, toujours de la musique n'est pas du tout en rapport avec ce que je dis, c'est terrible. En tout cas, ouais, la volonté de trouver du rire partout, de sourire des choses et de trouver de l'autodérision d'une part, et puis de savoir dire des choses avec de l'optimisme. Ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu donner dans cet album. Donc, en effet, la tristitude, c'est des petits malheurs quotidiens, mais essayer de les tourner vers le côté de ce qu'ils ont de drôle et de grotesque.
On va parler de ce single. Moi, j'avais l'album, d'une manière générale, j'avais plutôt l'impression que c'était la tendrécitude pour faire un parallèle. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le coup de griffe sur certains titres. Et puis, en même temps, derrière, il y a la caresse, il y a un côté sympathique, un côté gentil qui vient contrebalancer tout ça. C'est un peu ça, le principe de l'album.
Ouais, je crois foncièrement que c'est pas un album qui est méchant, qui est... Enfin, à partir du moment où tout part de l'autodérision... j'ai pas envie d'être méchant contre moi-même. donc il y a vraiment j'ai envie de rire avec les gens, pas contre les gens, tu vois. Je veux pas monter les gens les uns contre les autres, je veux pas moi être me monter les gens à dos. Je veux que la musique, mes chansons soient une fête, soient un moment de partage et tout ça. Donc c'est tant mieux si c'est la tendresse qui émane de tout ça, et même de ces petits coups de griffe.
Est-ce que ça a été perçu par la ville de Nancy, par exemple, qui fait partie des choses un peu égratignées dans l'album? Je crois que ça leur a fait moyennement plaisir. Ça vous a permis de faire la une des quotidiens du côté de la ville de Nancy?
Ouais, mais donc c'est vrai qu'il y a eu une page complète dans l'Est républicain au sujet de la chanson, et l'article était super parce que il lisait tout le rire qu'il faut y voir, et il y a un côté un peu pamphlet dans... Est-ce que je peux me permettre d'éteindre la musique?
Oui.
Voilà.
Ça déconcentre.
Oui, exactement. Je vais mettre une petite pause, voilà. y a tout un côté exercice de style où je tacle complètement la ville de Nancy, je la pourris, et en même temps c'est pas vraiment contre la ville de Nancy, c'est je pense sur ce sentiment qu'on peut avoir que un endroit est moche quand on y apprend une mauvaise nouvelle, par exemple, tu vois, t'as l'impression que tout est gris et que tu veux plus jamais revenir là quand. Et voilà, c'est un peu moi ce qui s'est passé sur une histoire personnelle, qui est pas une histoire d'amour raté, mais une histoire d'amitié un peu qui s'est pourrie à Nancy. Donc voilà, c'était un prétexte, mais après, faut pas confondre les formes que prennent certaines chansons avec le voilà, il y a aucune vraiment agressivité et tout ça. Et je suis déjà allé à Nancy et j'espère bien y revenir et y être accueilli comme je l'ai été les autres fois. Ouais.
Donc pas de vraie non plus contre la jardinière de légumes, tout ce genre de choses non plus.
Si, là c'est différent. C'est la seule vraie chanson engagée. Voilà, la jardinière de légumes, voilà, pour qu'on arrête dans les cantines de France ou d'ailleurs de nous servir cette espèce de parodie de repas, quoi, toute cette espèce de bouillasse informe qui traîne dans une sauce, dans un plat en inox et qu'on appelle une jardinière de légumes. C'est une insulte à tous les jardiniers et toutes les jardinières de France. Et d'ailleurs, encore une fois, Donc, c'est la seule chanson vraiment engagée, vraiment seule chanson coup de gueule de cet album.
Non, on sent que ça sent le vécu. La tristitude, on y revient, donc c'est le single phare de l'album qu'on entend vraiment à peu près partout. On est heureux d'apprendre que c'est de l'autodérision évidemment et du second degré parce que la chanson nous dit quand même que la tristitude, c'est tout le monde. Finalement, c'est nous tous en fait, et c'est la vie d'une manière générale.
Mais oui, on a tous connu ces petits moments le matin où tu claques les clés de ton appartement, enfin. Tu claques la porte et les clés sont à l'intérieur. Oh non, pas ça. Ou la voiture démarre pas. Ou je ne sais pas. Voilà, on a tous connu ces moments pas marrants sur le moment, mais qui finalement après t'en rigoles un petit peu. Après, c'est oui, je pense qu'on a tous vécu ça. Quoi. Alors c'est vrai que dans la chanson, il y a des petites phrases qui vont un peu plus loin, qui dérapent un peu plus, mais c'était pareil pour aller creuser dans l'écriture et s'amuser avec ça. Ouais.
Le clip qui va avec la chanson, là il y a un casting de tirage de tranches, comment ça s'est passé? Ils sont assez collecteurs.
Mais oui, mais alors ça je tiens à dire, c'est que c'est ça qu'il y a de bien dans ce clip, c'est qu'il y a qu'il y a une centaine de gens qui défilent pour juste montrer leur tristitude avec leur visage. Et il y a que 4 vrais comédiens, le reste sont vraiment des amis, des fans, des gens qui sont venus pour le casting comme ça et de manière très très sympa et voilà, et donc c'est pour ça que c'est un petit peu un visage certainement de la un peu généraliste de peut-être de la société ou je ne sais quoi, mais en tout cas il y a des gens qui viennent de partout, tous les horizons et c'est assez agréable, j'aime bien cette idée là.
Tu représentes bien l'album, j'ai l'impression qu'on voit qu'on tire la tronche dans le clip, on a un petit peu de mal à se tenir souvent, et puis le clip se termine par quelques fronts sourires et quelques rires, c'est un peu aussi ça, c'est symbole de l'album, c'est-à-dire des choses un petit peu cinglantes, l'humour un peu noir, mais finalement on rigole d'un peu tout.
Il faut, de toute façon, et même quand tout est gris, il faut retrouver le sourire, il faut essayer de s'amuser de tout, donc oui, c'est ça, tant mieux si le clip est un petit résumé, un moment de partage autour de ça, ouais.
Et puis il y a, ça c'est de l'aparté, dans la chanson, une petite imitation de Clo-Clo, c'est quoi, c'est une vocation ratée d'imitateur, de sosie, ou c'est une autre voie peut-être à explorer?
Non, je pense que c'est un vrai clin d'œil j'ai toujours rêvé d'être électricien, quoi. Donc c'est pour ça, je me suis dit que, je suis un grand fan de chansons françaises dans son ensemble et donc automatiquement de Claude François et tout ce qu'il a amené au reggae. Il y a une espèce de clin d'œil, imitation, ce qu'on veut. Maintenant, je ne veux surtout pas être imitateur de Claude François. Je laisse à ça le boulot à Benoît Poulvord qui l'a fait. D'une magnifique manière, mais je n'ai pas honte de dire que j'aime la chanson française, j'aime Joe Dassin, j'aime Alain Souchon et Julien Clerc.
Justement, on va en parler de cette chanson, c'est le concept de ce rendez-vous, Ma musique à moi. On va gratter dans vos souvenirs, dans des anecdotes qui ont un peu jalonné votre vie pro ou votre vie perso. Par exemple, si je vous dis la chanson qui vous rappellerait l'idole de votre enfance ou l'idole de votre adolescence, ce serait quel titre et lié à quelle anecdote?
Idole, J'ai jamais eu de poster de qui que ce soit, tu vois, dans ma chambre. Si, peut-être, non, je mens. Si c'est les Beatles, ouais. Les Beatles, j'ai une photo des Beatles, ouais, dans ma chambre, ouais. Et une chanson, c'est impossible de choisir une chanson des Beatles. Peut-être I Want You, She's So Heavy, qui est un des morceaux de rock les plus incroyables, avec une fin qui n'en finit pas et on s'en lasse pas. Moi, je m'en lasse pas. Un morceau incroyable sur Abbey Road. Je suis fan absolu des Beatles. Après, dans les fans de chansons françaises de l'époque, je me rappelle de chansons comme Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. C'était vraiment dur parce qu'il marchait vraiment seul dans le clip. Il avait son sac de militaire sur le dos. On est en 85, j'étais un tout petit bonhomme encore, j'avais 10 ans. Et la chanson me marquait vachement, je trouvais ça... Le solo de saxo, à l'époque, je trouvais ça classe. Le solo un peu musique rock progressif. Et j'avoue que j'ai une vraie tendresse, vraiment, à le fait de réécouter cette chanson-là encore aujourd'hui. Je trouve que c'est... Et puis, il avait la classe, il écrivait vraiment des chansons, mais imparables. Et, bah, il est fort, Goldman, il est fort.
Ça veut dire que quand on est à cette époque-là, on n'est pas encore Odd Laff, on est encore Olivier, et on se projette déjà, il y a forcément l'âme d'artiste qui est déjà là, et on s'imagine déjà à la place de Jean-Jacques Goldman.
Non, à l'époque, je rêvais pas du tout d'être chanteur. Quand j'avais cet âge-là, c'est venu plus tard.
C'était quoi l'envie à cette époque ?
Moi, je voulais être footballeur, moi. Et j'étais nul en foot. J'étais le mec qu'on prenait le dernier, qu'on choisissait en dernier dans la cour quand on devait faire un match. J'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Donc j'ai décidé, bien consciencieusement, d'être prof de grec. Ça a duré 2 ans. Et puis après, je me suis cherché. Je me suis beaucoup drogué pendant une heure. Et puis après, j'ai cherché. Je me suis laissé aller jusqu'à ce que je découvre la musique et que je m'abandonne à la musique, mais j'ai vraiment pas fait de la musique pour beaucoup en fait rêvent d'être star et se mettent à faire de la musique. Moi j'ai fait la musique, je me suis abandonné dedans et je rêvais pas d'être star vraiment. C'est juste après la musique c'était un besoin viscéral de jouer, chanter et ça l'est toujours, donc tant mieux. Et après, au fur et à mesure, j'ai rêvé peut-être de reconnaissance, etc. Et c'est venu, ça a répondu, donc c'était super, mais c'est venu, ouais, je pense plus à l'adolescence, vers 15 ans, le besoin de jouer sans arrêt. Et puis au lycée, c'est génial quand tu joues de la musique et que les autres t'écoutent, tu trouves une place. C'est cool d'être musicien dans une classe, tu vois, t'es ado quand certains... cherchent leur place de gros dur ou de sportif ou d'intello ou de machin. Moi, j'ai la place de musicien, je trouve que c'était plutôt confortable.
Et pas de star system comme Jean-Jacques Goldman, finalement, qui reste aussi assez discret.
Ouais, avec une notoriété quand même un peu supérieure, quand même.
Il cherche pas forcément.
Ouais, c'est ça. Après, je comprends tout à fait le fait qu'il ait cherché à fuir les médias, mais il les a... parce qu'il était présent astucieusement, quoi. C'est-à-dire que il a fui le côté people de la médiatisation, quoi. Après, il a su faire des plateaux télé ou radio quand il y a eu besoin, mais il a su rester tranquille et être un petit peu en dehors des circuits de prod. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis très très content de répondre aux émissions de radio, aux interviews, à la presse, à la télé. Enfin, c'est un exercice qui est amusant. Donc voilà. Je suis content de rentrer dans ce truc-là. Après, peut-être qu'un jour, j'en aurais marre et je préférerais être sur mon grand bateau, mon grand yacht, à caresser mes chiens ou mes dauphins. Avec 37 naïades à moitié nues qui me serviront des ponches, coco. Non, aujourd'hui, je suis très, très content de la vie à la fois simple et excitante que j'ai en ce moment, où je découvre vraiment cette médiatisation. Ouais.
Autre souvenir, la chanson, le premier disque acheté. Quel était ce titre-là, l'album, peut-être pour un morceau en particulier, et l'excitation peut-être du premier rendez-vous chez le disquaire, quand on paye le CD avec ses propres deniers.
Non, je vais te dire que je crois que le premier disque, je crois qu'on me l'a offert, c'était pour un anniversaire, un truc comme ça. C'était un single du groupe Survivor, qui chantait « In a burning heart, just about to burst », la chanson de Rocky IV.
C'est un symbole.
Ah ouais, ça me fait rire que ce soit ça le premier truc. Là, donc là, c'est un bon moment. Je crois que ça devait être 86 ou je sais pas quoi. J'étais déjà, en fait, moi je me suis vraiment mis à découvrir la chanson avec le top 50 et tout ça. Mais tu vois, j'ai acheté des disques, j'ai fait la démarche assez peu et assez tard en fait. Mais le vrai premier album, si je crois que le premier album dont je me souviens vraiment complet, c'était Balavoine. Et je crois que c'était un best-of. Un best-of de Balavoine avec le chanteur. Comment dire,
artiste engagé, c'est pas de l'artiste jetable. Voilà, là, c'est vraiment, on le choisit pas Balavoine par hasard non plus.
Écoute, en tout cas, il n'était pas encore mort à l'époque. Et le fait est que lui ne faisait pas partie des circuits top 50. Il n'était pas. C'est vrai que c'est pas un artiste comme les autres, mais moi, j'étais vraiment. Vraiment encore un petit bonhomme au moment où j'ai acheté ça, mais c'est vrai que c'était avant sa mort et je trouvais ça vraiment, je trouvais ça vraiment de la bonne chanson quoi. Je trouvais que c'était vraiment c'était un grand chanteur, un bon musicien et les chansons étaient bien écrites, disaient quelque chose quoi. C'était vraiment bien, tu vois, mais une chanson comme le chanteur, t'as à la fois le côté tube quoi, tu vois, le truc qu'on retient tous et c'est tellement intéressant quoi. Tellement intéressant ce qu'il raconte quoi.
C'est-à-dire quand on est petit et qu'on apprend la mort de l'artiste qu'on apprécie beaucoup.
Ah ça m'a marqué ça ouais, ça m'a marqué et surtout la même année t'as Balavoine et t'as Coluche quoi, donc y avait un côté ça te fait découvrir la mort d'une manière un petit peu concrète et du coup j'avais l'impression, c'est assez marrant, tu vois, j'avais l'impression à l'époque que par exemple Goldman allait mourir, tu vois, je me suis dit bah ouais c'est que voilà, il faut voilà, faut passer par là pour être connu presque. Mais heureusement, Jean-Jacques Goldman va très bien, enfin je crois. Mais c'est hyper marquant. C'est toi t'as 10 ans, tu as un truc qui s'écroule quoi, et puis une mort hyper tragique quoi, tu vois, t'as pas le temps de t'y préparer du tout, donc ouais.
Et ça renforce la puissance du morceau aujourd'hui du coup.
Bah en tout cas je pense que ça a permis lui de le faire connaître à un public encore plus large à l'époque, ça l'a rendu chanteur populaire et généraliste, alors qu'il était je pense dans une case chanteur engagé via plus d'ailleurs ses coups de gueule sur les plateaux que sur et puis ses actions en fait que via ses chansons elles-mêmes, parce qu'il y a des chansons, toi, elles sont plus engagées sur des causes, mais c'est pas. Tu sentais qu'elles étaient lourdes de sens, mais c'est plus, je pense, par son personnage et ses coups de gueule hors chanson qu'il a été classé là-dedans. Mais tant mieux qu'en tout cas, il a été connu par le plus grand nombre, parce que c'est un gars, je pense, qui valait le coup, ouais.
On est là pour du live ce soir à Leclerc, on va parler concert, un souvenir de concert, d'un titre vu en live qui restera gravé à tout jamais.
Voilà, c'est trop dur, je vais t'en donner un ou deux. Il y a un truc qui m'avait forcément marqué à plusieurs titres, c'était le premier gros concert que j'ai fait, c'était Paul McCartney à Bercy en 93, tu vois, donc j'ai été quand même... c'est tard pour faire des concerts, mais j'ai vu très très peu de concerts. Tu sais que je me suis produit sur scène avant de voir des gens sur scène. C'est très 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 prétentieux ça, je pense, comme manière de procéder. En tout cas, McCartney à Bercy, donc forcément espèce de prière, messe incroyable, tu vois. Et il commence Penny Lane et il se plante et il arrête la chanson au milieu et il parle de musique, ouais, sorry, machin, en anglais. Et ils ont retourné, ils l'ont recommencé. Et je trouvais que ça a donné tout son sens et toute sa valeur à ce truc. C'est que cette icône, un des mecs les plus connus du monde, enfin, tu vois, vraiment, et puis qui a été dans le plus grand groupe de tous les temps, se plante encore et recommence. C'était hyper humain, hyper chaleureux. Et puis ça, après, c'était juste génial parce que c'était hyper bien joué derrière. Enfin, tu vois. Mais c'est juste, ça donnait un côté humain et je trouve ça génial. Et je me suis dit, en fait, ça faisait peut-être le meilleur moment du concert. Pourquoi ? Parce que ce truc-là, bah, on était les seuls à l'avoir. C'était pas une erreur voulue, un truc, un faux effet de sentimental, quoi. C'était un vrai truc incroyable. Et puis, Et puis après, les meilleurs, enfin, les Debout sur le Zinc, qui est un des groupes. Là, c'est des amis, c'est là ma famille, c'est des gens qui comptent plus que jamais pour moi. Ou la seule fois où j'ai pleuré en voyant un concert, c'était une de leurs chansons. C'était à l'Olympia, via l'Olympia, et c'est des bêtes de scène, c'est des bêtes de personnes, enfin, au sens positif du terme, c'est des gens géniaux, et là, ils arrivent à créer des communions incroyables sur une chanson qui s'appelle Ma Déclaration, où il y avait eux, il y avait des copains aussi, les Blaireaux de Ravel, il y avait les Ogres de Barbac, et j'ai pleuré vraiment en voyant un spectacle tellement magique, la chanson géniale, c'est avec des gens géniaux. Un souvenir incroyable, ouais, voilà.
On parle de cette jeune génération, justement, Ogre de Barbac, Debout sur le Zinc, Aldebert. Ce sont des gens qui ont une médiatisation, qui ont une vraie communauté de fans, mais pas forcément en étant surexposés dans les médias. Ça, c'est finalement une bonne chose pour vous, ou il y a un regret que les portes des médias leur soient pas forcément suffisamment ouvertes?
Écoute, tant qu'ils peuvent chanter leurs chansons... les faire connaître, c'est un peu le même propos que pour moi. Tant qu'on peut faire notre métier et continuer à en vivre, bah, je dirais ça va. Mais c'est vrai que y a tout un tas de gens qui font pas partie du choix des médias parce que le style n'est pas ce qu'ils veulent que la société ait l'impression que... qu'on écoute, voilà. Mais en effet, du coup, ça leur permet en effet une grande liberté d'écriture, de style. Après, il faut, je pense que tous ces gens, autant qu'ils sont, auraient rien contre le fait d'être plus médiatisés, tant que ça sert les chansons et le projet, quoi. Tant qu'on les oblige pas à faire ci ou à rentrer dans des cases ou machin. Et voilà. Mais je pense que l'histoire se souviendra forcément de ces noms, de ces groupes et de leurs chansons parce qu'elles ont elles ont une place totale et le public s'y trompe pas. Hein. Tu vois, dans les festivals, c'est ces gens-là qui remplissent. Hein. Tu vois, tu prends Chimène Badi, comment dire, elle va vendre plein de disques, mais c'est pas elle qui va. Enfin, je pense ouais, certainement. En tout cas, on la voit dans les émissions de télé, on l'entend à la radio. Mais par contre, dans les festivals, c'est pas des gens qui sont construits par la scène, c'est des gens qui sont construits par la télé, par la radio. Et du coup, tu sens une démarche totalement différente. C'est presque un métier différent, quoi. Mais le public, lui, s'y trompe pas parce que voyage beaucoup plus sur un concert ces groupes-là parce que c'est tu sens que c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de plus profond. Et donc, enfin, tant mieux pour eux, peut-être tant mieux pour le public, mais moi je serais ravi si chacun avait son heure de gloire dans ces gens-là, quoi.
L'avenir peut-être nous le dira. Avant-dernière évocation d'anecdote, on en a peut-être dit un mot, la chanson qui peut vous tirer les larmes à chaque fois, qui vous amène la tristitude, pour revenir sur le nom du single en ce moment. Est-ce qu'il y a un titre comme ça qui a cette force qui fait qu'on ne peut pas lui résister, même si on l'a écouté déjà 100 fois?
Le petit bonhomme en mousse, peut-être, de Patrick Sébastien. Je triche à chaque fois, je t'en donne une ou deux, quoi, mais voire trois. Allez, je pense que Ne me quitte pas, peut-être de Brel ou Amsterdam, enfin, parce que, enfin, comment mieux interpréter un titre que ça, tu sais.
Corrélation entre le titre et l'interprète aussi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu trembles les mots, tu les vis, tu les exploses, tu les machins. Il y a pas de meilleur interprète. C'était un monument, quoi. Et voilà. Et après, sur les chansons, c'est drôle parce que de Brassens, tu vois, il y a une chanson qui me touche, mais profondément. Et c'est Les Passantes. Sur toutes ces histoires d'amour que tu laisses passer et qui est d'une noirceur. Plus tu rentres dans la chanson, la mélodie est géniale, Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime, etc. Et c'est pas des mots de lui, quoi. C'est pas une chanson de Brassens. C'est pas lui qui l'a écrite, celle-là. Il a mis en musique un poème qu'on lui avait envoyé. Il a mis des années à l'écrire. Et quand il envoie la chanson fin finie, le type était mort depuis 15 jours, en fait. C'était une histoire assez tragique, mais la chanson est génialissime. Et puis, là, tu vois, je suis dans les anciennes, mais c'est peut-être aussi par hasard, quoi. C'est et l'hymne à l'amour de Piaf. Ouais, l'hymne à l'amour de Piaf, je trouve que c'est la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Et voilà, donc ces chansons-là me laissent vraiment pas de marbre. Ouais, c'est vraiment des monuments, ouais, je trouve.
On y puise de l'inspiration aussi, forcément, en tant qu'artiste.
Ouais, c'est beaucoup de leçons, parce que c'est des chansons qui passent... toutes les époques où tu vois qu'il faut surtout pas se focaliser sur la forme forcément, mais vraiment le fond. T'es obligé d'être sûr vraiment de ce que tu veux dire, ce que tu veux faire passer. Tu vois, ne pas s'intéresser qu'aux arrangements ou dans quel cas je veux rentrer. Il faut juste dire qu'est-ce que viscéralement te porte, et ça peut être des choses, tu vois, pourquoi pas légères, pourquoi pas un peu loufoques, mais par contre, en tout cas, faut que tu vives ton truc à fond, quoi. Et ces trois-là, alors après, tu vois, moi je ne peux pas du tout me comparer ni machin, parce que on parle de monstres, tu vois, sacrés, quoi. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient de commun, c'est qu'ils étaient dans leur univers, sans soucier vraiment de ce qu'il y avait autour. Ils vivaient leur truc, et quand ils étaient brels dans l'interprétation, Piaf, pareil, dans l'interprétation, elle était 300% dans son truc. Et puis Brassens dans l'écriture, quoi. Il s'est inventé tout un univers, il a créé un monde à lui, vraiment. Et ça a payé, parce que là, ça a donné tout le... C'est les gens qui se sont ralliés à eux, tu vois. Ils n'ont pas cherché à se rallier... aux gens ou à un mode d'expression. Ils ont fait ce qui leur paraissait être bien. Et j'espère avoir la force de faire ça.
On est dans le vrai, contrairement à ce que chante Le Monde est beau, où on est dans le très virtuel
aujourd'hui. Oui, certainement. Ouais, certainement, ouais. Et les artistes qui restent sont ceux qui n'attendent, qui ne savent pas de copier un chemin. Ouais, c'est ça, qui essaient de faire ce qu'ils aiment. Après, tu plais pas forcément dans ce que tu aimes à tout le monde, mais en tout cas, le livre public devient se rallier à ta cause et à ta chapelle, quoi, toi. Mais je rêve d'avoir la force de faire ça le plus longtemps possible, quoi.
On termine sur une note légère, comme l'album. La chanson que vous écoutez uniquement en cachette, tellement vous avez honte d'aimer ce morceau-là, mais vous l'aimez vraiment pourtant.
Là, je peux pas. Non, je peux pas. Non, moi, je suis un fan des années 80. Et alors là, je peux toutes les chansons du top 50. Et là, c'est les choses que je vais aimer pour le plaisir, en me disant, c'était quand même des bonnes chansons. Mais Tes états d'Amérique de Lena Parker. Tes états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Je les visite un par un, Eric, dans leur ordre alphabétique. Da, 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 da. Je trouve une chanson incroyable, voilà.
On est loin de Brel et de Brassens.
On est loin de Brel et de Brassens, c'est très léger, mais je trouve que... Moi, j'ai vraiment appris la musique là-dessus, et il y avait vraiment des perles de mélodies, de... C'était hyper frais, quoi, en fait. C'était hyper frais, ces chansons-là. Et puis, elles sont toujours jouables, toi, sur une guitare. Tu peux les chanter et partager des trucs. Donc, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses... Mes potes rockers ou quoi ont vraiment du mal à comprendre cet amour que je peux avoir pour cette période-là. Mais je suis un fan des années 80.
C'est-à-dire que si vous êtes seul, on vous met ça tranquillement, personne ne vous voit, il se passe quoi si on vous passe le titre?
Ah, je le chante avec plaisir, voire je peux faire semblant d'avoir un micro, prendre une raquette de tennis et gratter les cordes en imaginant. Ouais, non, j'ai vraiment commencé là-dessus. Ouais, non, je suis. Ça va être pareil sur Macumba, Les Démons de Minuit et Etienne. Ouais, non, je suis très très bon client de ce genre de choses. Ouais.
Mais ça reste entre nous.
Exactement, ce sera notre secret, ne le dévoile à personne.